Recoin de la Bible, un podcast pour nous immerger dans les Écritures.
Quelqu'un qui apprend à jouer de la musique doit s'entraîner. Il doit répéter. Il doit parfois se faire aider par un professeur ou un maître afin d'apprendre à lire les notes couramment, afin de jouer juste, afin de mesurer ses gestes, d'anticiper les difficultés, de trouver le bon rythme. Dans le but d'exceller dans son apprentissage, pour son propre développement et pour la plus grande joie de son maître et de ses auditeurs. Vous l'aurez compris, l'entraînement et la discipline sont une bonne chose. La discipline permet d'obtenir de bons résultats dans tout apprentissage. C'est également vrai pour les sportifs, aussi pour les enfants qui apprennent à lire et à écrire à l'école, pour les rachetés du Seigneur qui grandissent dans la foi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nomme ceux qui le suivent ses disciples. Ils doivent apprendre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu sur la question de la discipline selon Dieu dans la Bible. C'est un sujet très vaste, et nous allons nous limiter à un aspect en particulier. La discipline bienveillante de Dieu envers chacun de ses enfants dans sa relation personnelle. Bonjour Étienne.
Bonjour Hervé.
Alors, trouve-t-on dans la parole de Dieu, dans la Bible, des passages qui clairement parlent de la discipline de Dieu envers chacun de nous?
Eh bien, on va ouvrir la parole dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et nous voyons à partir du verset 4. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus tôt soumis au Père des esprits? Et nous vivrons, car ceux-là disciplinaient pendant peu de temps selon qu'ils le trouvaient bon, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle.
Voilà en effet un passage qui est parlant et qui est très riche, très dense. J'en ai trouvé un autre dans Proverbes chapitre 3. Proverbe 3, verset 11, où il est dit « Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel et n'aie pas en aversion sa réprimande, car celui que l'Éternel aime, il le discipline comme un père le fils auquel il prend plaisir. » Je pense que là, nous pouvons déjà dégager quelques pensées fondamentales dans la discipline que Dieu exerce en tant que père envers chacun de ses enfants.
Nous avons besoin, en effet, dans notre vie, comme on l'a lu, nos pères nous ont disciplinés, mais bien sûr dans le sens de nous apprendre, de nous corriger, de nous enseigner ce que nous avions à faire. Et on peut donc en déduire qu'il n'y a pas dans cette discipline le sens de la punition.
Non, je pense que c'est très important d'insister là-dessus. C'est que la discipline de Dieu, en tant que père, nous l'avons lu, il discipline tout fils en qui il prend plaisir. Et c'est un effet de l'amour et de la grâce de Dieu envers moi s'il me discipline. Nous ne sommes pas des bâtards, mais parce qu'il nous aime, c'est un effet de sa bienveillance. Dieu veille à ce que, en tant que fils, je sois maintenu dans le droit chemin, celui qui l'honore, lui, et celui qui est bon pour moi, ce chemin. Donc, il s'agit bien d'une discipline corrective. Dieu utilise toujours une discipline corrective et jamais une discipline punitive.
Et donc, dans le sens de corrective, c'est pour que nous puissions revenir dans un chemin droit, dans quelque chose de correct.
Voilà. De juste.
De juste.
Mmh. C'est très important. Et donc, nous avons lu dans ce passage d'Hébreux 12, le but, donc le motif de Dieu, c'est bien son amour envers chacun de ses enfants, sa bienveillance. Et le but, c'est de nous maintenir et de nous faire dans le droit chemin et de nous faire participer, comment est-il dit, participer à la
sainteté.
À la sainteté, voilà, exactement. Donc, c'est quelque chose de très bon en soi. Alors, Dieu peut et va appliquer une discipline corrective, vertueuse, on pourrait dire. Dieu est juste, il ne va pas agir de manière injuste, et toujours bien équilibré aussi. Et il va agir de manière, par exemple, préventive, pour nous faire comprendre notre besoin de dépendance. Ensuite, il peut aussi agir en discipline pour que nous arrivions à la repentance lorsque nous faisons mauvais chemin. Parce que sans repentance, bon, il y a la repentance au début de la vie chrétienne qui nous donne le salut éternel, mais ensuite, il est nécessaire de se remettre en question et de se repentir quand on fait mal en tant qu'enfant de Dieu afin de retrouver la communion.
On peut voir d'ailleurs dans ce début de ce que nous avons lu en Hébreux 12 au verset 4, c'est que cette instruction commence par quelque chose vraiment de puissant. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Donc dans nos vies, voilà, nous n'avons pas dû aller jusqu'à donner sa vie, faire couler son sang pour résister au péché. Nous n'avons pas encore connu, peut-être y a-t-il des circonstances particulières que nous ne connaissons pas, mais la parole nous montre ici que ce n'est pas encore à ce point-là que nous sommes allés. Donc, voilà, nous devons... Mais nous avons oublié l'exhortation. Et donc, cela vient nous rafraîchir, vient nous montrer qu'en effet, dans la vie de chaque jour, nous avons besoin absolument. Ce n'est pas parce qu'on est devenu adulte, parce qu'on a quitté le chemin de l'école et parce qu'on a son activité, qu'on a soi-même des enfants, que nous n'avons pas besoin justement de cette discipline.
Tout à fait. Et il est dit là, vous avez oublié. Et nous avons vite fait d'oublier l'instruction que nous recevons de la part de Dieu au travers de la parole, notamment. Et quand on oublie ce que Dieu dit, eh bien, on fait très rapidement fausse route. Et puis Dieu, lui, va agir avec grâce, en discipline parfois. Mais la discipline, retenons-le bien encore, on ne répétera pas, jamais suffisamment, ce n'est pas une discipline punitive, mais c'est une instruction, c'est une façon d'agir de la part de Dieu pour nous entraîner, pour nous améliorer, pour corriger, etc. Et donc, Dieu ne punit pas. Alors, j'aimerais ajouter, nulle part dans la parole de Dieu, on ne trouve que Dieu punit, dans le sens, faire subir une perte. Donc, faire subir une perte, ce serait une punition que Dieu n'applique pas sur ses enfants. Nous avons reçu toute chose en Christ, et Dieu ne va jamais nous punir. Nous ne voyons pas cette pensée dans la parole de Dieu.
Même si, à certains moments, on le ressent peut-être, on se dit, voilà, on avait quelque chose devant soi, et Dieu nous montre qu'on ne peut pas le faire. Peut-être va-t-on ressentir dans notre fort intérieur en disant, mais je ne peux pas faire quelque chose que j'avais envie de faire, mais c'est quelque chose, c'est une intervention de Dieu positive pour nous diriger vers quelque chose de meilleur.
Tout à fait. En effet, parfois, on peut avoir l'impression que Dieu nous a enlevé quelque chose. Dieu donne, Dieu reprend, que le nom de l'Éternel soit béni. il sait toutes choses, dans sa sagesse, son amour infini ne change pas envers nous. Et si Dieu nous prive ou permet que nous perdions quelque chose, ce n'est pas une punition. Parce que ce qu'il veut nous donner à la place est toujours de loin meilleur à ce que nous perdons. Puisque ce qu'il désire, c'est nous amener dans sa proximité, dans son intimité, dans la jouissance de toutes ces bénédictions qu'il veut déverser sur nous. Et parfois, il faut que nous perdions quelque chose. Mais ce n'est pas une punition. La seule mention de la punition que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est envers les incrédules qui, à la fin de leur vie sur la terre, n'ont toujours pas accepté le Seigneur Jésus pour leur sauveur. Et là, il est dit que Dieu les punit parce qu'ils partent en enfer. C'est la seule punition que Dieu inflige aux hommes, et donc pas à ses propres enfants, mais aux hommes qui auront refusé la grâce jusqu'à leur dernier souffle. C'est-à-dire, cette punition, ils font la perte de manière finale et complète de la possibilité de se trouver dans la présence de Dieu. Et attention, cette punition envers ceux qui partent en enfer pour l'éternité, si on prend l'original grec, c'est la juste rétribution. Donc ce n'est pas injuste, c'est quelque chose qui est totalement juste selon la justice divine.
Alors on peut aborder justement les buts de cette discipline dans les aspects que l'on voit ici, dans les passages que nous avons lus, parce que nous voyons dans le verset 11 d'Hébreux 12, « Mais plus tard, cette discipline, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. » Voilà donc le but que Dieu recherche. Il recherche d'abord de nous faire connaître sa personne et la personne du Seigneur Jésus davantage, de connaître sa gloire. Il recherche le bien de celui envers qui cette discipline s'exerce. Et cela nous montre aussi, justement, ce plaisir, cette joie que Dieu possède alors dans la marche de celui qui répond, qui vit dans cette relation heureuse et bénie avec son Sauveur.
Quelle beauté! En effet, nous pensons souvent à nous-mêmes, mais nous devons également penser à ce que notre obéissance, le fait d'accepter cette instruction qui vient de Dieu, peut lui procurer comme joie, comme satisfaction. Lui, le Dieu Saint, ce Dieu qui s'est révélé comme Père, quelle joie il doit avoir lorsqu'un enfant, un de ses enfants, obéit et marche soigneusement. Et d'ailleurs, dans la deuxième épître de Jean, il est dit, et c'est l'apôtre Jean qui parle, hein, par l'Esprit, déjà l'apôtre Jean dit « Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. » Comme le Père, lorsqu'il est parlé du Seigneur Jésus, a trouvé sa satisfaction dans le Fils de l'homme sur la terre qui était parfaitement obéissant et qui marchait dans un chemin de justice et de sainteté, celui-ci en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et bien maintenant, le Seigneur n'est plus sur la terre comme homme, mais nous y sommes. Bien sûr, nous ne sommes pas à la hauteur du Seigneur Jésus, mais nous sommes les représentants, ses enfants. Et on peut imaginer que le Seigneur, Dieu ne trouve aucun plaisir en d'autres personnes qu'en ceux qu'il a rachetés et qui marchent selon sa discipline, selon son instruction. Comment Dieu agit-il ? Comment Dieu applique-t-il la discipline dans ma vie, dans ta vie ? Étienne, à ton avis ?
Oui. Ben, on peut, d'après tout ce que la parole nous enseigne, parce que voilà, c'est sur la base de la parole de Dieu que nous pouvons voir cela, il y a une intervention préventive. Dieu connaît toute chose à l'avance. Et donc, il peut voir l'un de ses enfants qui peut s'éloigner ou s'égarer dans un chemin, être influencé par quelque chose, et Dieu, préventivement, avant que justement le fait s'accomplisse, eh bien, Dieu peut intervenir.
Alors, donc Dieu peut agir en discipline de manière préventive, c'est une discipline, on va dire, qui a pour but de nous maintenir, de nous garder dans le droit chemin. Et puis parfois, il doit agir en discipline active, dans le sens où il doit nous ramener, nous remettre sur le droit chemin. Et Dieu a ses façons de travailler qui sont toujours parfaites. Et est-ce qu'on peut trouver des exemples de discipline préventive dans la parole ?
Oui, bien sûr, et de nombreux exemples. Et on ne sera sans doute pas exhaustif dans les exemples qui sont donnés. Le premier moyen, c'est Dieu qui parle lui-même. Surtout, pourrions-nous dire, dans l'Ancien Testament, où la relation avec les serviteurs était beaucoup plus directe, parce que c'est l'Éternel, bien sûr, qui se révélait directement et qui parlait à ses serviteurs. Nous avons quelque chose de merveilleux entre les mains maintenant, c'est la parole de Dieu.
Écrite.
Et donc, dans la deuxième épître à Timothée, on peut lire au chapitre 3, deuxième épître à Timothée, chapitre 3, et au verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. »
Oui, donc la parole a été écrite pour nous instruire. C'est une discipline préventive. Et en effet, si on pense à tous les exemples qu'il y a, par exemple dans l'Ancien Testament, de tous ces hommes qui ont marché devant Dieu, et Dieu nous en donne le cheminement et l'issue et ce qu'il en pense, cela nous instruit et cela devrait nous aider à faire des meilleurs choix dans notre vie à nous, en sachant que ces choses sont déjà arrivées à d'autres personnes, et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous donne tous ces exemples, écrits noir sur blanc, pour nous faire comprendre le chemin à suivre.
Voilà, et bien sûr, pour comprendre la parole, nous avons le Saint-Esprit, mais nous voyons aussi, dans les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit lui-même, qui conduit les choses pour qu'un apôtre, aussi grand pourrions-nous dire que l'apôtre Paul, qui lui-même avait des désirs d'aller visiter telle ville ou telle autre ville pour annoncer l'Évangile, et on voit que l'Esprit lui interdit, barre ce chemin et le conduit plutôt vers un autre endroit.
Alors, en effet, parfois nous ne comprenons pas pourquoi ce que nous avons proposé de faire, même par conscience envers Dieu, n'arrive pas, et Dieu ne le permet pas. Mais Dieu sait mieux que nous ce qu'il faut ou pas faire. Et donc peut-être que on avait l'intention de faire ceci ou cela, ou d'accepter tel ou tel travail, par exemple, dans notre vie de tous les jours, et puis on aurait tellement voulu l'obtenir, on aurait peut-être même trouvé des raisons de faire ce travail, parce qu'en plus ça nous permettrait de servir le Seigneur, et puis voilà, ça ne marche pas, on ne l'a pas obtenu. Mais peut-être que ce n'était pas bon, ou que ce n'était pas exactement ce qu'il nous fallait. Dieu nous donnera autre chose qui est meilleure, probablement.
Voilà. Alors on a comme exemple, il y a des animaux qui ont pu intervenir, et on sait que le Seigneur Jésus a averti l'apôtre Pierre avant sa crucifixion et avant ce que Pierre allait réaliser, et il lui a dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié. Et donc on voit là, après là, ce qui s'est produit alors dans le cœur de Pierre, suite à cette circonstance, bien que prévenu, il a été jusque-là parce que, voilà, il s'est trouvé peut-être dans des circonstances particulières et il n'a pas su tenir vraiment, pourrions-nous dire, sa place de disciple du Seigneur Jésus. Mais la grâce merveilleuse intervient.
Et nous sommes bien souvent comme Pierre, c'est-à-dire nous sommes prévenus, la parole nous parle beaucoup, Pierre a oublié peut-être que le Seigneur l'avait prévenu de ce fait triste, qu'il allait le renier. Il pensait même que ça ne lui arriverait jamais. Et nous sommes peut-être souvent comme ça. La parole nous prévient de beaucoup de choses. Elle nous enseigne sur beaucoup de niveaux. Et puis nous oublions. Et puis il faut parfois, ici c'est un coq, un animal. Et il faut parfois un événement qui paraît anodin ou habituel pour nous rappeler les paroles du Seigneur et nous ramener dans le bon chemin et dans le droit chemin. Dieu agit comme il le veut, comme il l'entend, et c'est toujours pour nous ramener. Parfois ce n'est pas un coq, parfois ça peut être un collègue, un incrédule même, qui va nous dire quelque chose de très banal et qui va toucher notre cœur et nous faire rappeler ce que Dieu attend de nous. Alors nous sommes humiliés en nous-mêmes et nous en arrivons à la repentance en nous disant « c'est vrai, je n'aurais pas dû ». Eh bien, maintenant, Dieu me parle au travers de cela, eh bien, je reviens à lui.
Alors, quelques exemples aussi très parlants nous sont donnés dans la parole à travers des personnages que Dieu se plaît d'ailleurs à nous donner en détail, leur vie et les circonstances qu'ils ont traversées. On peut parler de Job. Job était un homme parfait devant Dieu. Mais Dieu savait qu'il y avait encore quelque chose à lui apprendre. Et on voit par quelles circonstances terribles Job va passer pour apprendre à connaître Dieu.
Et cela nous montre que aucun homme, personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'y a plus rien à apprendre. Parce que si Job doit encore passer par des événements parce que Dieu veut continuer à lui apprendre quelque chose, eh bien, c'est d'autant plus valable pour chacun d'entre nous. Parce que je ne pense pas qu'il soit dit de chacun d'entre nous que nous sommes parfaits parmi ceux de notre temps.
Bien sûr. Et c'est beau de voir Job, dans le chapitre 39 de son livre, dire « Et Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis une créature de rien, et que te répliquerai-je ? Je mettrai ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois et je ne répondrai plus. Et deux fois et je n'ajouterai rien. » Voilà, Job a compris que même s'il était parfait, il avait peut-être cette satisfaction lui-même, en lui-même, d'être parfait devant Dieu. Et puis ici, eh bien, il comprend. Il comprend combien Dieu est bien plus grand que lui. Je suis une créature de rien. Mais la bénédiction qu'il reçoit, on en parlait en commençant ses propos, a été bien plus grande que tout ce qu'il a perdu.
Il a reçu le double. Dieu ne voulait pas le priver de quoi que ce soit. Dieu voulait l'approcher encore plus près de son cœur et le bénir encore plus. C'est le propos de Dieu. Quoi qu'il arrive, nous trouvons d'autres passages ou d'autres exemples dans la parole. Il y a celui, par exemple, de Naomi, qui a quitté Bethel avec son mari et ses fils, qui est parti vivre dans une terre étrangère, qui a perdu ses fils, et qui revient à Bethléem avec une belle-fille qui s'appelle
Ruth.
Ruth, voilà. Et nous trouvons dans ce passage comment Dieu a ramené. Bien sûr, il y a des conséquences. Il y a eu
trois décès.
Mais combien Dieu peut agir même lorsque nous faisons des erreurs et qu'en fin de compte, il y ait quelque chose pour sa gloire. Il y a cette expression en anglais qui s'appelle le silver lining. On pourrait dire comme un fil d'argent, un côté positif qui s'est développé en trame de fond pour qu'à la fin des épreuves, eh bien, on puisse se rendre compte de la grâce de Dieu et en retirer quand même des bénédictions. Et cette Ruth, qui vient d'un pays étranger, eh bien, elle va donner naissance à un enfant qui sera le grand-père du roi David et qui entre dans la lignée du Messie.
Et c'est d'autant plus beau dans cette expression de ce fil d'argent que c'est cette matière qui nous parle du rachat. Et en effet, Boaz a racheté cette part de Naomi et aussi de Ruth, bien sûr, et qui est donc ainsi entré dans la généalogie de Jésus. Et Naomi elle-même peut dire à son retour, « Je suis parti comblé », c'est la signification de son nom. Et je reviens à vide, ne m'appelez plus Naomi, mais Mara. Or, en revenant, sans doute avait-elle ce sentiment-là, de cette expérience terrible qu'elle avait vécue, mais elle va recevoir tout de la part de Boaz, du divin Boaz. Alors, bien sûr, on peut encore parler d'une autre personne que tout le monde connaît bien dans la parole, si on a l'habitude de lire la parole de Dieu, c'est Jacob.
Tellement il nous ressemble, ou tellement nous lui ressemblons.
Voilà. Donc là, c'est toute sa vie qui est instructive pour voir comment il a eu affaire à Dieu et combien les compassions de Dieu à son égard ont été grandes, parce que les plans d'amour de Dieu devaient s'accomplir. Et donc, malgré tout ce que Job a pu penser ou vouloir faire de par ses propres capacités, Dieu allait plus loin encore, voyait quelque chose de plus grand pour lui que ce qu'il cherchait dans l'immédiat.
Oui, il a souvent cherché un profit immédiat, mais Dieu lui a donné bien plus que cela. Jacob est aussi à expérimenter une certaine discipline préventive aussi, parce qu'après avoir lutté contre l'ange et après avoir prévalu, on lui trouve une certaine dignité. Dieu lui donne d'ailleurs un nouveau nom, Israël, prince de l'Éternel. Mais en même temps, en lui donnant cette dignité, cette bénédiction, on pourrait dire, eh bien, il lui touche la hanche et il devient boiteux. Et donc, il devra s'appuyer sur un bâton pour continuer sa marche.
Alors, bien sûr, on peut continuer à ainsi trouver beaucoup d'exemples et on peut être encouragé à travers un tel sujet de relire la parole en pensant justement dans tous ses serviteurs combien Dieu les a guidés, les a gardés préventivement, correctivement, avec beaucoup de soin. Et cette bienveillance de Dieu à notre égard, ce sont justement tous ces soins qu'il a envers nous continuellement.
Et nous voyons dans tous les cas que tous ces hommes, ces femmes, sont arrivés à la bénédiction une fois qu'ils ont accepté le travail de Dieu en discipline dans chacune de leurs vies. Tant qu'on rejette la discipline de Dieu, on n'avance pas. On s'appauvrit. On s'enfonce. Mais une fois qu'on accepte que la discipline de Dieu, elle est effectivement bienveillante, elle est effectivement pour me ramener dans le droit chemin et tout près de son cœur. Eh bien, une fois cela, une fois qu'on est obéissant et qu'on ne méprise pas l'enseignement que Dieu veut nous donner concrètement dans chacune de nos vies, alors on progresse, on devient spirituel par la grâce et on apprend à connaître Dieu et ce qu'il y a dans son cœur. Et alors, Dieu ouvre les écluses des bénédictions. Et là, nous sommes enrichis à tout niveau.
Oui, on peut revenir à ce qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreux 12, c'est que la fin de ce que nous avons lu à la fin du verset 11, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle.
Paisible.
Voilà. Paisible.
Il y a donc la paix quand on accepte la discipline de Dieu dans notre vie, quelles que soient les circonstances.
À bientôt pour d'autres sujets bibliques.